Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Rare à l'écoute, la chaîne de podcast dédiée aux maladies rares. Aujourd'hui, nous continuons d'explorer l'hémoglobinurie paroxystique nocturne, ou HPN. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Louis Thériault. Docteur Thériault, bonjour.
Bonjour.
Docteur Thériault, vous êtes hématologue, praticien hospitalier au sein du service de médecine interne et immunologie clinique du CHU de Lille. Et vous êtes également coordonnateur au sein du service du centre de compétences aplasie médulaire acquise et constitutionnelle. Alors, docteur Thériault, nous allons plus particulièrement aborder ensemble l'HPN hémolytique. Et ma première question est très simple. Qu'appelle-t-on HPN hémolytique ?
Alors, l'HPN hémolytique, c'est une maladie extrêmement rare. On pense que la prévalence de cette maladie est de 2 cas pour 1 million d'habitants. Et cette maladie, avant, était connue sous le nom de maladie de Marchiafava-Michelli. Et cette maladie associe 3 points cardinaux essentiels. C'est un tableau d'anémie hémolytique corpusculaire acquise et un tableau de thrombose veineuse et ou artérielle, souvent dans des localisations atypiques. Derrière ces deux grands axes, il y a toujours un terrain sous-jacent d'aplasie médulaire idiopathique, mais qui, dans le cadre de l'hémoglobinurie paroxystique nocturne classique, est un petit peu au second plan.
Et quels sont les principaux symptômes évocateurs cliniques d'une HPN hémolytique ?
Alors, pour comprendre la symptomatologie de cette maladie, il faut dire un petit mot de physiopathologie. Effectivement, on sait maintenant que cette hémoglobinurie paroxystique nocturne est liée à une mutation génétique acquise, mutation d'un gène qui s'appelle PIGA, et ce gène code pour une protéine qui s'appelle la GPI, c'est une protéine transmembranaire qui sert d'ancrage à de nombreuses protéines, dont les protéines CD55 et CD59, qui sont essentielles pour protéger la cellule de l'action lytique du complément. Donc on perd ces protéines et on a un tableau donc, qui est lié à l'activation du complément. Et le premier signe va donc être un tableau d'anémie hémolytique acquise. Et le deuxième élément lié à cette perte du contrôle du complément va être un tableau de thrombose. Alors ces thromboses, elles sont principalement veineuses dans 85% des cas. Elles peuvent toucher des sites classiques comme des phlébites des membres inférieurs, des embolies pulmonaires, mais on va aussi avoir des thromboses dites atypiques avec des thromboses des veines sus-hépatiques formant le syndrome de Budd-Chiari, des thromboses cérébrales ou des thromboses portes. On peut aussi avoir des thromboses artérielles dans 15% des cas, principalement sous la forme d'accidents vasculaires cérébro-artériels ou d'infarctus du myocarde. À côté de ces deux symptômes essentiels, on va retrouver tout un tas de manifestations qui sont parfois pas faciles à interpréter et à repérer par le clinicien. On peut retrouver un tableau d'hypertension pulmonaire, on peut retrouver un tableau douloureux abdominal ou thoracique, une dyspnée, une dysphagie, dans un quart des cas, une hémoglobinurie et chez l'homme, des troubles de l'érection.
Et face à un patient qui présente ce type de symptômes, quels sont les principaux diagnostics différentiels à écarter ?
Alors finalement, si le patient se présente, mais c'est finalement assez rare avec tous ces symptômes, il y a peu de diagnostics différentiels, surtout quand on veut relier ce tableau d'anémie et de thrombose. Devant le tableau d'anémie hémolytique, effectivement, il faut malgré tout s'assurer que ce ne soit pas une anémie hémolytique immunologique, donc demander un test de Coombs qui sera dans ce cas-là négatif, ou alors devant un tableau d'anémie hémolytique et de thrombopénie, éliminer une microangiopathie thrombotique.
Et devant ces symptômes évocateurs d'hémoglobinurie paroxystique nocturne de type hémolytique, comment affirmer le diagnostic cette fois ?
Alors le diagnostic finalement il est relativement simple, il repose sur un seul examen à demander au laboratoire d'hématologie et de biologie. C'est un examen en cytométrie en flux qui va étudier à la surface des polynucléaires neutrophiles et à la surface des monocytes eh bien, la perte d'expression de ces protéines GPI ancrées comme le CD59 ou le CD55. Et on va donc mettre comme ça en évidence des cellules qui ont perdu partiellement ou totalement ces protéines.
Alors, en termes de prise en charge, docteur Thériault, maintenant, quels sont les grands principes de prise en charge de ces patients qui souffrent d'HPN hémolytique ?
Alors, le grand principe de la prise en charge, c'est l'utilisation d'un anticorps monoclonal. Et cet anticorps monoclonal permet donc d'inhiber la fraction C5 du complément et permet donc de contrôler toutes les conséquences de l'activation de ce complément et notamment le tableau hémolytique. Et dans 80% des cas, eh bien les patients qui étaient dépendants des transfusions deviennent indépendants des transfusions. Et surtout, on a pu montrer qu'il n'y avait plus d'événements thrombotiques. Or, on sait que c'était ces événements thrombotiques qui participaient à la mortalité importante de cette pathologie. À côté, reste une petite place pour le traitement anticoagulant. Pour des patients qui ont thrombosé, on sait que cette prophylaxie primaire est inefficace chez les patients. Par contre, à ce jour, on poursuit les traitements anticoagulants dans le cadre d'une prophylaxie secondaire.
Eh bien, merci infiniment, docteur Thériault, de nous avoir éclairé sur cette maladie rare qu'est l'hémoglobinurie paroxystique nocturne. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.rarealecoute.com où de nombreuses informations sont à votre disposition. Nous vous remercions de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur l'HPN. À très vite.